forment un sens et des nœuds d'échelle, une surpiqûre, une pointe. Des ponts. Pungo. Des points n'avancent que par mouvement, écartent les dimensions verticales constamment, continuement, créent des liens vers, fend le lieu, miroir de la mer et le rond, déploiement, un seul, un point, une colline, punctum, une colline, une poussée, une échine, une crête, un plan, tout s'y engouffre, s'y réduit, cette réduction, un pivot. « Je » est un clou central, articulant des pans intenables. L'observatoire, la pente, le barrage, la montagne, le profil, les yeux. Qualité de l'œil, remplacée par qualité de l'oreille, cumulée, feuilletée, prête à, par la bande, les branches veulent se refermer. Sphère étendue, autour, un point, rassemble les qualités de l'œil. Le lieu de l'évidence remplacé par du kairos, kora. Qualité de l'oreille, cumulée, une couche feuilletée, une peau, prête à... Quel visage horizontal par la bande, pour quel regard, les branches. Quelle précision veulent, pour quelle dioptrie, se refermer. Un miroir tremble. Se tenir, chaque s'y tenir dans la lumière au lieu passe-parole de s'y tenir de l'un à l'autre intensément, une nervure. To draw attention à une manne, à une noce, mauve pâle, s'engouffre, stream, vide, je évidence comment cela bouge, écoute comment tout bouge, écoute de l'écoute, ascoltando à partir de la tige, tige en fonction de l'accroche. Histoire du cercle, lenteur, souplesse, mollesse. Épaisseur au sol de comment on s'accroche. Fabacé, sauve. Horizon, sauve. Accommodation, sauve. Tout s'accroche. Brume, sauve. Fait l'épaisseur. Baume, sauve. Du couvert, ensemble. Le moment du toucher précis, nous. Instable, glisse, avance, dessille. Filtre. Le couvert est épais. Correspondance. Ne l'est plus. Crête. Arbre. Au bout d'un certain temps, nuage, les choses se passent. Passe. Là où il y a quelque chose, au-dessus, juste valeur enlevée des objets. Filtre. Enlève. Au-dessus, juste à l'aplomb de la tête, ce qui reste sans interruption. Des valeurs. Cela se referme. Leurs différences, la manufacture comme l'industrie des approches se fondent, soudaines, fondent, rapides, sans geste, vers ce qui peut sauver. Le globe. L'œil. Fabacé lance. Fabacé enroule. Fabacé tient. Fabacé ramène, ne fait rien d'autre qu'au vent. Lieux différents à partir desquels faire mouvement. Chaque dans le vent se brise, se plie, Fabacé tient. Graminée, membrane, graminée sec, fascia, graminée raide, s'y engouffre. Graminée donne son accord, se jette, coup, vienne se jeter, coupelle. Horizon, comment ? Les hauteurs n'en sont pas. Si ce n'est par transposition, sont preuve de coulisses rapides, preuve d'une poussée inverse de l'arrondissure, plus ou moins furtive, sans égale. Par quel angle s'opère ? À partir de là, seulement sur ce punctum, glissement, escamotage, focal, tourne. Non pas que le nuage que je regarde, que je sens vouloir, ni que je sois le nuage à porte de pupille, mais que rien n'existe qu'une toute nuée réticulation-relief. Rassemblée, réticulation circule en un point ici blanc, devenu blanc. Se relever après les coups, chaque disparaissent très vite par strates différentes, apparaissent, divisées, disparaissent. Et léger écartement, très vite, qui dit fréquentation, un seul sens, suffisante pour qu'un peu moins dès que le regard pousse, atteint lumière, vitesse, nuage, pour qu'un espace au sol, à peine rien n'atteint plus loin, distinguide. Ce ne sont qu'apparitions, guides. Fortement, existence, intervalle de lumière, disparition, à plat, dispersion, viens, vite. Lien furtif, chaque tige déforme. Constant se plaît à renverser multiples, les courants tiennent, le noter marche comme le mettre dans les corps. Regardez ce qui varie. Faire venir des lois sans formule, défi extrême. Orientation. Lenteur. Extrême lenteur. Articulaire. Des leviers sans nombre, l'abord. Les parois de l'écriture. J'entends ta voix à 3 minutes 30. Je t'entendrai demain, à nouveau. Puis plus tard encore. Merci pour tes mots et tes images. Impératif. Je viens aujourd'hui de faire l'ascension de la plus haute montagne de la région, que l'on nomme à bon droit Mont Ventoux, conduit par l'unique désir d'en voir la hauteur remarquable. J'avais l'idée de ce périple depuis de nombreuses années. Comme tu le sais, j'ai, dès l'enfance, grandi en ces lieux par le fait de ce destin qui mène la vie des hommes. Et cette montagne, largement visible en tout lieu, s'offre presque toujours à mon regard. L'envie me prit de faire enfin une bonne fois ce que chaque jour je projetais de faire. En relisant la veille l'histoire romaine de Tite-Live, j'étais tombé par hasard sur le passage où Philippe, roi de Macédoine, celui qui combattit le peuple romain, escalada les Muses en Thessalie et confirma l'opinion répandue selon laquelle on pouvait de son sommet apercevoir deux mers, l'Adriatique et le pont Euxin. Vrai ou faux, je n'en ai pas l'assurance parfaite car la distance séparant ce mont de notre région et le désaccord des écrivains rendent la chose douteuse. Sans vouloir tous les évoquer, le géographe Pomponius Mela n'a pas d'hésitation à ce sujet. Tite-Live, en revanche, juge la rumeur infondée. Quant à moi, si l'expérience que j'avais de ce mont-là était aussi tangible que celle que j'ai de celui-ci, je ne laisserai pas longtemps le doute perdurer. Du reste, pour en venir au mont Ventoux, en laissant l'autre de côté, il m'a paru qu'on excuserait chez un jeune particulier ce qui, chez un roi âgé, n'est pas remis en cause. Quand j'en vins à penser à un compagnon de route, comble d'étonnement, pas un de mes amis ne me sembla réellement faire l'affaire. Si rare est l'harmonie parfaite des volontés et des caractères, même entre des êtres chers. L'un était trop mou, l'autre trop nerveux, l'un trop lent, l'autre trop vif, l'un trop morose, l'autre trop enjoué, l'un trop bête, l'autre trop réfléchi à mon goût. Le silence de l'un me faisait peur, de même que la loquacité de l'autre. Le poids et l'embonpoint de l'un me terrifiaient, la maigreur et la faiblesse de l'autre également. La froide indifférence de l'un me décourageait, mais l'activité fébrile de l'autre pareillement. Autant de défauts qu'on tolère, quoique graves, quand on est chez soi. La charité excuse tout. Et l'amitié ne refuse aucun fardeau, mais qui devienne particulièrement pénible en voyage. Mon esprit délicat, épris d'un plaisir distingué, pesait un à un chaque inconvénient avec circonspection, sans naturellement remettre en cause les liens de l'amitié et en silence condamnait tout ce qu'il prévoyait pouvoir nuire à l'expédition déterminée. Qu'en penses-tu ? Finalement, je me tournai vers mes domestiques et à mon unique frère, mon cadet, que tu connais bien, je dévoilai mon projet. Il ne pouvait rien entendre de plus agréable et me remercia de se voir appelé auprès de moi, à la place d'un ami, autant que d'un frère. Afin de savoir où nous allons, pour savoir ce que nous allons faire, nous allons tout d'abord vous présenter les différents appareils dont nous vous proposons d'étudier dans cet ouvrage la fabrication et l'utilisation. Pour vous permettre déjà d'avoir une première vue d'ensemble sur chacun d'eux, nous vous indiquons brièvement quel est leur but, leur emploi, leur fonction, à quoi ils servent. Nos histoires d'amour, de solitude, d'intérieur, à fleur de ma peau. Celles que tu as touchées effectivement comme un paysage. Le souvenir de cet arrêt pour déjeuner. Tous nos sens aux aguets, nos yeux écarquillés sur l'ouverture au monde. Et je me disais peut-être que nous devrions nous revoir et marcher ensemble dans ce paysage. Le radiocontrôleur, également appelé polymètre ou polymesureur ou contrôleur universel, est l'appareil de mesure qui est toujours utilisé. Pour le radiotechnicien qui démarre, qui commence à s'équiper aussi bien que pour l'amateur radio, que pour les professionnels, c'est le premier appareil dont il faut se munir. C'est en somme l'appareil obligatoire, car c'est celui qui permet les premières et indispensables vérifications, celui qu'on utilise constamment par la suite. Vous êtes devant un châssis dont vous venez de terminer le câblage. Vous branchez au secteur, ça ne marche pas. Vous éprouvez un pénible sentiment d'impuissance, vous vous sentez désarmé. Vos yeux pour voir, vos doigts pour toucher ne peuvent vous renseigner sur ce qui se passe d'anormal, sur ce qui ne va pas. Il vous faut un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est votre radiocontrôleur. Il permet les premières mesures, les vérifications les plus simples, les plus élémentaires. Mesure des tensions en volts, des courants en milliampères, des résistances en ohms. Il permet de sonner des circuits pour savoir s'ils ne sont pas coupés ou en court-circuit. C'est l'appareil de base, l'appareil de départ. Le premier dont on se munit lorsqu'on a décidé de commencer à s'équiper un tant soit peu. On s'en sert pratiquement toujours et pour tout. Quand on possède au moins un radiocontrôleur, on peut déjà faire quelque chose d'intéressant, aussi bien en radio qu'en télévision. Il trouve son emploi aussi bien au montage qu'en dépannage, en réglage, alignement et mise au point. Même si par la suite on se munit d'autres appareils plus spécialisés, on se servira toujours et également d'un radiocontrôleur. Et puis parfois les mots entendus, lus, perçus, sont comme les images. Je peux y entendre ce que je veux y voir et inversement. Comment faire confiance à ce que je lis ? Cette nuit, j'ai écouté un entreaperçu de ta lecture, celle d'une autre, et j'ai cru qu'il s'agissait de tes mots, de mon corps et du paysage qui nous entourait ce week-end. Pourquoi ? Comment cela est-il possible ? J'ai eu peur un moment de cette déroute, mais j'ai aussi compris que le timbre de ta voix me trompait. Tu me dis aussi lorsque t'écrire devient trop. Le jour fixé, nous quittâmes la maison et arrivâmes vers le soir à Malocène. L'endroit est au pied de la montagne, dans la direction du nord. Après y avoir fait halte une journée, c'est aujourd'hui qu'accompagnés chacun d'un serviteur, nous commençâmes l'ascension du mont, non sans grande difficulté. Il s'agit en effet d'une masse de terre rocheuse escarpée et presque inaccessible. Mais le poète l'a bien dit, le travail vient à bout de tout quand il est opiniâtre. Virgile, Géorgique. La longueur du jour, les caresses de l'air, la vigueur de notre volonté, la robustesse et l'agilité de nos corps et autres qualités du même genre accompagnaient notre marche. Seule la nature du lieu nous embarrassait. Dans une gorge du mont, nous rencontrâmes un berger d'un âge avancé qui tenta avec force palabre de nous faire renoncer à l'ascension. Selon ses dires, 50 ans auparavant, pareillement poussé par l'ardeur juvénile, il était monté tout en haut. Il en avait seulement rapporté des regrets, de la fatigue et des lacérations que les pierres et les ronces avaient infligées à ses membres et à ses vêtements. Et jamais, auparavant ou par la suite, on n'avait ouï dire chez eux qu'un autre avait eu la même audace. Tandis qu'il s'égosillait, croissait en nous, comme sont sourds aux avertissements les esprits des jeunes gens, le désir de braver l'interdit. Quand le vieillard eut compris que ses efforts étaient vains, il fit quelques pas parmi les rochers, nous montra du doigt un sentier abrupt, nous faisant 1000 recommandations qu'il redoubla dans notre dos alors que nous le quittions. Ayant laissé entre ses mains tout ce qui, vêtements ou autres effets, pouvaient nous encombrer, nous nous armâmes dans le seul but de l'ascension et montâmes, plein d'ardeur. Le lampemètre ou le générateur haute fréquence modulé. Par ordre de nécessité dans l'équipement d'un atelier, c'est le deuxième appareil dont on se munit généralement. Le générateur haute fréquence, qu'on appelle également une hétérodyne, est un petit émetteur de table dont on peut faire varier à volonté la fréquence, autrement dit la longueur d'onde, et la puissance des émissions qu'il fournit. On peut ainsi suppléer aux émissions radiophoniques qui n'ont évidemment pas lieu à toutes les heures de la journée et qui peuvent ne se produire sur toutes les longueurs d'onde. Cela vous sera très commode pour essayer un récepteur sur telle ou telle fréquence d'émission dont vous pourrez disposer à volonté. Et surtout, vous pourrez aussi injecter des émissions en certains points bien déterminés d'un récepteur, là où vous le voudrez, et non pas uniquement à l'antenne. Cela vous facilitera parfois énormément le dépannage d'un récepteur récalcitrant. Généralement, une hétérodyne fournit également une émission de basse fréquence, ce qui est aussi très utile pour le dépannage des amplificateurs BF et des étages BF d'un récepteur. On dispose donc ainsi à volonté de une onde entretenue pure de haute fréquence, une onde entretenue modulée de haute fréquence, une onde de basse fréquence. On utilise principalement générateurs haute fréquence pour l'alignement, le réglage et la mise au point, le dépannage des radiorécepteurs. Je me demande s'il y a des filtres de saturation pour les mots aussi. Saturer les couleurs et les formes afin d'y voir apparaître ce qui est perdu dans l'image et voir dans les mots ce qui n'est en réalité pas. Je m'aperçois que je suis encore épuisée. Je partirai marcher demain matin. Tout est prêt pour mon voyage. Je sais quel chemin je vais prendre pour ne pas le connaître un peu plus. Et puis tes mots, et filtres, ce jeu de dans la langue, tu me provoques au sens très positif du terme, s'entend, car ce que tu m'écris dans ton dernier message est vraiment ce que je fais, pour image comme pour mots, et c'est ce que je nomme évidence. Je travaille de plus en plus consciemment à creuser ce concept. Il se marie, danse, avec la notion de fascia. Ces membranes qui entourent nos organes permettent communication, mémoire, enveloppement, soutien, séparation. Tu as touché juste, en plus du mot perdu qui provoque plein de connexions. Mais comme il arrive presque toujours, à un immense effort succède une prompte fatigue. Non loin de là, nous nous arrêtâmes donc sur un roc. L'ayant à son tour quitté, nous progressâmes, mais plus lentement. Moi, surtout, j'arpentais le chemin de montagne d'un pas déjà mesuré. Mon frère, de son côté, grâce à un raccourci le long des crêtes du mont, avait gagné de la hauteur. Plus indolent, j'inclinais vers le bas, et comme il ne cessait de m'appeler pour me désigner un chemin plus direct, je répondais que j'avais bon espoir de trouver un passage plus facile de l'autre côté, et que je ne craignais pas un chemin plus long s'il pouvait me permettre d'avancer plus à plat. J'usais de ce prétexte pour excuser ma lenteur et pendant que les autres étaient déjà maîtres des sommets, j'errais par les vallons sans qu'à un endroit ne s'ouvrît de passage plus doux. La route, au contraire, s'allongeait et la peine inutile que je prenais se faisait plus pesante. Finalement, perclus de fatigue, je me reprochais mes errances et résolus de gagner directement les hauteurs. Épuisé, irrité, je rejoignis mon frère qui m'attendait, revigoré par une longue sieste, puis nous cheminâmes assez longtemps d'un pas égal. À peine avions-nous quitté ce col qu'oublieux de mes premiers égarements, me voici entraîné de nouveau vers un niveau inférieur. Et, après avoir encore parcouru des vallées à la recherche de chemins longs et faciles, je tombais sur un passage long et difficile. Je cherchais, oui, à différer la peine de l'ascension. Mais l'ingéniosité humaine ne peut rien contre la nature. Il ne peut se faire qu'un corps parvienne en haut en descendant. Bref, non sans essuyer les rires de mon frère, je fis à mon grand dame, en l'espace de quelques heures, trois fois ou plus, l'expérience de la dure réalité. Si j'allais un peu plus loin, cela a à voir avec marcher, danser, le paysage, écrire, cuisiner, faire l'amour, avec des jeux de distance énormes et des vitesses et des lenteurs. Quant à la réalité, je ne m'y entends guère. Je ne sais pas s'il y a invention ou création dans cette affaire-là, ou juste dévoilement de ce qui se tient là, dessous ou autrement. Bon, justement, je me dévoile un peu, je n'espère pas trop et que cela te parle. Ce que tu écris me parle. J'y entends quelque chose de térébrant, porté vers une course. À force de m'égarer, je finis par m'asseoir dans le creux d'un vallon. Là, sautant alternativement dans le vif de ma pensée, des choses matérielles ou spirituelles, je m'en prise à moi-même en ces termes, ou à peu près. Ce que tu as éprouvé bien des fois aujourd'hui, lors de l'ascension de ce mont, sache que cela t'arrive à toi et à bien des hommes qui cherchent à accéder à la béatitude. Certes, il est difficile de s'en rendre compte. Si les mouvements du corps se font à découvert, ceux de l'esprit sont invisibles et cachés. Ce que nous appelons la béatitude est selon moi situé dans un endroit élevé. C'est un chemin tortueux qui y mène, dit-on. Beaucoup de cols aussi viennent s'interposer et il faut glorieusement progresser de vertu en vertu. Sur la cime est la fin de tout, le terme de la route vers lequel notre voyage est fixé. Tous veulent y parvenir, mais comme le dit Ovide, vouloir est peu de chose, il faut désirer pour atteindre son but. Sauf à te tromper une fois encore, comment cela t'arrive, toi, du moins, non seulement tu veux, mais encore tu désires? Qu'est-ce donc alors qui te retient? Certainement rien d'autre qu'un chemin trop plat parmi d'infimes plaisirs terrestres et qui semble à première vue plutôt aisé. Toutefois, lorsque tu auras longtemps été dans l'errance, il faudra soit qu'au prix de la peine que tu as à tort différé, tu montes jusqu'au sommet de la béatitude, soit que tu te vautres paresseusement dans les vallées de tes péchés, et si là, ce que je crains de te prédire, les ténèbres et l'ombre de la mort viennent te trouver, tu devras vivre une nuit sans fin dans de perpétuelles souffrances. Je n'imagine pas dire combien cette réflexion me redressa et le corps et l'esprit vers ce qu'il restait à faire. Plaise à Dieu que j'achève avec mon esprit ce voyage auquel j'aspire nuit et jour, tout comme j'ai surmonté les difficultés et achevé ce voyage d'aujourd'hui avec mes pieds bien réels. J'ignore si ce que nous sommes capables de faire sans changer de lieu et en un clin d'œil, simplement par notre esprit agile et immortel, présente beaucoup plus de difficultés que ce que nous sommes forcés de faire en dépit d'un corps moribond et périssable dans un temps donné et sous le poids du fardeau de nos membres. Le lampemètre. Comme son nom l'indique, le lampemètre concerne particulièrement les tubes électroniques que l'on continue à appeler des lampes de radio. Ce n'est d'ailleurs pas à proprement parler un appareil de mesure, mais plus exactement un appareil de vérification, de contrôle, tout au moins en ce qui concerne les modèles couramment utilisés dans les ateliers. Il permet de vérifier si une lampe correspond encore à certaines conditions de fonctionnement qu'on est en droit d'attendre d'elle, si elle n'a pas un défaut qui la rend inapte à un service normal. La mesure réelle des caractéristiques d'une lampe entraînerait à concevoir un appareil qui permettrait de mesurer la pente, le coefficient d'amplification, la résistance interne. Un tel appareil coûte fort cher et très encombrant et ne trouve guère son emploi que dans un laboratoire. On peut dire en effet que de telles mesures sont absolument inutiles pour les besoins courants du montage et du dépannage, aussi bien en radio qu'en télévision. Les modèles de lampemètre couramment employés permettent de vérifier, de déceler les défauts dont peuvent être affectées les lampes en fonctionnement normal. Mauvais isolement entre filament et cathode, court-circuit interne, c'est-à-dire entre électrodes, rupture du filament, débit électronique insuffisant, crachement. Le lampemètre trouve son emploi dans les ateliers de fabrication, de montage et de dépannage, aussi bien en radio qu'en télévision, mais il est plus particulièrement utile dans un atelier spécialisé de dépannage. Je n'ai pas été marché. Cela me manque. Le contrôle intensifie ce qui nous traverse. Il l'architecture. Ne l'éloigne pas. Je refais en mémoire et sur la carte le trajet de ma balade solitaire du samedi en fin d'après-midi. J'ai couru. Couru à partir du cimetière. Couru jusqu'à la bifurcation. Couru dans les montées, dans les virages, dans les chaînes, dans les rochers, la mousse, la fraîcheur montante du sol, humé. Il me fallait une dépense. Sentir mon souffle, user de mes muscles, une pente forte et rattraper le soleil. Me suis vu, sanglier, bête fauve. La meute, pas loin, et croisait les chasseurs, leur attente, sans aguets. Puis le plan accroche les rayons, la lumière épaisse, orange, sourd. Ce qu'elle touche devient liquide, c'est exactement ça. Besoin d'aller chercher ça. De ne pas faire demi-tour. Bifurquer m'a permis d'être estomaqué par comment le travail de l'eau a fendu le plateau et le fend encore. Les ruptures de pente brusques, brutales, impérieuses, béances lentes. J'aime avoir respiration coupée par l'effet géologique. Le plus haut de tous les cols est celui que les habitants des forêts appellent le Fillot. Pourquoi, je l'ignore, à moins de soupçonner qu'on l'appelle ainsi comme parfois par antiphrase. Il semble en effet vraiment le père de tous les monts alentours. À son sommet se trouve un petit plateau. C'est là qu'épuisés nous nous reposâmes. D'abord déstabilisé par une atmosphère inhabituelle et le spectacle qu'offrait une vue particulièrement dégagée, je restais debout comme frappé de stupeur. Je regardais à nouveau. J'avais les nuées sous mes pieds. J'avais désormais moins de peine à croire ce que j'avais lu ou entendu dire à propos de l'Athos ou de l'Olympe en le retrouvant sur un mont de moindre renommée. Puis, je dirigeais mes regards du côté des contrées italiennes où mon cœur incline davantage. Les Alpes, figées et enneigées, que passa jadis le farouche ennemi de la nation romaine en se frayant une route à travers les pierres au moyen de vinaigre, si l'on en croit la légende, je les vis de tout près, quoiqu'elles fussent éloignées d'une grande distance. Je soupirais, je l'avoue, après le ciel d'Italie qui se manifestait à mon cœur plus qu'à mes yeux, et une ardeur inexprimable m'envahit de revoir mon ami et ma patrie. J'en vins cependant à accuser sur ce double aveu la faiblesse de mon état encore peu viril. Ce n'était pourtant pas faute d'une double excuse, étayée par de puissants témoignages. Je suis resté planté là, dans le froid, hier soir, à attendre qu'il me transperce de sa réalité. Allume une cigarette pour être sûr que j'inhalais cette même réalité. Si tu ne m'intimes pas d'être muette, je ne le serai pas. Oscillation, toute dimension déployée. Muette, une petite mue. Je t'attends à chaque détour de la maison, retraçant ici tes pas. Je monte dans la chambre russe, je repense à nos deux corps. Une image me hante. Sortie fulgurante de la salle de bain, quelques gouttes d'eau coincées entre le pull vert saturé et ta peau blanche. Encore, s'il te plaît. Je vais aller sur tes traces, toutes sortes, suivre tes pas dans la montagne. Il fait le même temps qu'il y a une semaine, le vent qui traverse la maison cette nuit. Je ne me suis pas endormie sans tes mots. Mais quand tout ça nous a-t-il foudroyés ? L'intensité presque électrique de l'autre côté du plateau. Le voltmètre électronique. Le voltmètre électronique, également appelé voltmètre à lampe, est un appareil qui permet de mesurer des tensions, des volts. Mais c'est ce que nous permet déjà le radiocontrôleur. Pourquoi ce double emploi ? Il n'y a ici aucun double emploi. Aucun de ces appareils n'est absolument remplaçable par l'autre. Disons que le voltmètre électronique est plus spécialisé dans sa fonction, qu'il permet donc des mesures de tension d'une façon beaucoup plus exacte, plus précise, sans erreur, et surtout qu'il peut se permettre de les faire sur certains circuits, là où le radiocontrôleur est absolument inopérant. Il fait partie des appareils dont se munit le praticien qui s'équipe, qui veut sortir des classiques contrôleurs hétérodynes, qui veut faire mieux que du tâtonnement, que ce soit pour gagner du temps ou pour le plaisir de faire du travail plus intelligent, plus scientifique, dirons-nous. Avec le voltmètre électronique, vous découvrirez des tensions que vous ignorez avec le contrôleur. Il permet des mesures de tension continues et alternatives, et ces mesures en alternatif, il peut les faire aussi bien en haute fréquence qu'en basse fréquence. Ce sont là ses qualités essentielles. Déjà fort intéressant sur des radiorécepteurs ordinaires, il devient à peu près indispensable dès qu'on touche au téléviseur. C'est pourquoi son emploi s'est largement développé avec l'essor de la télévision. C'est toi qui, la première, as dit « manque ». J'ai ressenti ça. Depuis, mes bras, mes mains te réclament. Alors je suis partie marcher. Mais j'ai marché de manière à toujours être dans ta direction, effarée de ça. Pris la D216 sur les flancs du Grand Athée, s'arrêter avant le virage en épingle parce que sinon cela aurait mis dos à toi et demi-tour et le téléphone. Plongeons dans un état de stupeur parce que la sensation de ne plus maîtriser ces vagues-là est mon nouveau cerveau. Je l'explore, le découvre, il s'auto-analyse en continu, en vitesse ultra rapide. Quant à dompter ça. Puis, une nouvelle pensée assaillit mon esprit et me transporta de l'espace au temps. Je me disais en mon fort intérieur, « Cela fait 10 ans aujourd'hui que tu as achevé tes études et quitté Bologne. Ô Dieu immortel, ô sagesse immuable, combien cet intervalle a vu de changements importants dans ta conduite. Je passe sur ces souvenirs infinis. Je ne suis pas encore à bon port pour pouvoir me remémorer en toute quiétude les affres du passé. Le temps viendra peut-être où je retracerai tout ce que j'ai fait dans l'ordre où je l'ai fait. Et je commencerai par cette formule de Saint Augustin que tu connais bien. Je veux qu'on se souvienne de mes turpitudes passées et des corruptions charnelles de mon âme, non parce que je les aime, mais pour l'amour de toi, mon Dieu. Il me reste encore un problème particulièrement délicat et déplaisant. Ce que j'avais l'habitude d'aimer, je ne l'aime plus. Je mens. Je l'aime, mais avec moins d'intensité. Voilà que j'ai encore menti. J'aime, mais plus discrètement, plus tristement. Enfin, j'ai dit la vérité. Oui, c'est bien cela, j'aime, mais ce que j'aimerais ne pas aimer, ce que je désirerais haïr. J'aime toutefois, mais malgré moi, contraint, affligé et lugubre, et en moi-même je fais l'expérience dans mon malheur, du sens de ce vers célèbre. Je haïrais si je le peux, sinon j'aimerais à contre-cœur. Depuis presque 3 ans, cette volonté perverse et vaine qui me tenait tout entier, qui régnait seule, sans contradicteur, à la cour de mon cœur, a commencé de trouver en une autre volonté une rebelle qui lui résiste. Depuis longtemps, elle se livre dans les plaines de mes pensées une lutte impitoyable, à l'issue encore aujourd'hui incertaine, pour la domination de chacune, de chacun des deux hommes que je suis. C'est ainsi que ces 10 ans tout juste agitaient mes réflexions. Tu avais l'air chez toi dans ce lieu. J'ai aimé te voir dans ces rayons, ce fond un peu bordélique, ces paroles tranquilles, ce réseau tissé, reconnaissance. Savoir que j'allais peut-être avoir ton corps contre le mien. À ciel découvert, condensation de certains plis, ses humeurs, ton territoire, ta double peau, mon sentiment. À ciel découvert, main dans la main, condensation de certains plis. Ton territoire, ta double absence, ta double peau. Tu me sommes d'être debout devant toi, ne peux que plonger à la verticale. L'ohmmètre, mégomètre électronique. Le radiocontrôleur comprend la fonction d'ohmmètre parmi ses possibilités. Il peut être utilisé pour mesurer et vérifier des résistances et des circuits résistants. Mais cette fonction est assez limitée. Les contrôleurs courants ne peuvent guère monter plus haut que 2 à 3 mégohms environ. Et cela avec une précision qui, si elle est suffisante pour les besoins courants, peut ne pas toujours être considérée comme satisfaisante, pour certains cas particuliers. C'est pourquoi on a conçu l'ohmmètre électronique. Il est caractérisé par le fait qu'il permet de mesurer des résistances dans une très large gamme. Son efficacité s'étend en effet depuis quelques fractions d'ohms jusqu'à des centaines de milliers d'ohms. Aucun ohmmètre non électronique n'est capable de fournir une telle étendue de mesure. L'ohmmètre électronique donne une bien plus grande précision que l'ohmmètre ordinaire. L'amour ici est énorme. Ce n'est pas la question de le contenir, mais de comment le faire rayonner, intense, à travers ce qui est notre présence pour un temps sur un sol, corps, esprit, âme, étranger, réseau, tissu, fait de nous, le laisser nous user, nous agrandir, nous mener, nous abattre de joie. Chaque minute, chaque nuit ou brusque, de la luminosité est écho, ce qui rentre absolument s'invite. Je baisse la tête. Quelques éléments qui coulent vers dans le sol, sous la roche mère, y acquiescer. J'en vins ensuite à me préoccuper de l'avenir et à me poser cette question. Si par hasard il t'arrivait de mener pendant encore 2 lustres cette vie volatile et d'approcher de la vertu en proportion du temps écoulé, autant qu'en l'espace de ces 2 ans tu es sorti par le combat de la nouvelle volonté contre l'ancienne, de ton obstination passée, ne pourrais-tu pas alors, sinon avec certitude, du moins avec espoir, affronter la mort à l'âge de 40 ans et négliger d'une âme sereine ce résidu de vie qui s'en va vers la sénilité ? J'ai l'impression d'avoir, pour ainsi dire, oublié dans quel lieu j'étais venu et pour quelle raison, jusqu'au moment où dissiper les préoccupations pour lesquelles un autre cadre eût été plus important, opportun, j'avisais et contemplais ce que j'étais venu voir. Le moment se faisait pressant de partir, car déjà le soleil déclinait et l'ombre sur la montagne croissait. J'en prenais conscience, comme sortant d'un rêve. Je me retournais alors et regardais du côté du couchant. Frontière de la France et de l'Espagne, la cime pyrénéenne ne se voit pas de là où nous nous trouvions, quoiqu'il n'y ait pas à ma connaissance d'obstacle à cela. La raison en est seulement la fragilité du regard humain. On distinguait parfaitement bien les montagnes de la province de Lyon sur la droite et sur la gauche la mer de Marseille et celle qui baigne Aigues-Mortes, pourtant distante de plusieurs jours de marche. Le Rhône lui-même était sous nos yeux. Quelle étrangeté, toi, hier. Le grain de ta peau, ses douceurs extrêmes, son offert, ses fragrances, beauté rentrant en moi. Le grain de ta voix, sa granulométrie, ce qu'elle charrie d'appétit et de vision, roule, dévale, avance, tes yeux, leur fulgurance brun chaud, leur cercle bleu-vert, ton regard qui prend, tu es debout, tu regardes. Et aujourd'hui, je respire la mémoire de toi. Je caresse ton absence. J'aime un temps à l'envers. le signal traceur. Lorsqu'on a pratiqué le dépannage radio, lorsqu'on s'est parfois trouvé devant un poste récalcitrant à la recherche d'une panne ardue, bien camouflée, on reste parfois à songer à l'appareil de dépannage idéal, absolument parfait. Cet appareil sera conçu de la façon suivante. Il comportera, entre autres, un haut-parleur et un grand fil souple terminé en son extrémité par une sonde à chercheuse. On passera cette sonde au-dessus du poste à dépanner et à un moment donné, le haut-parleur vous dira par exemple « Top, c'est là ! Il faut changer la résistance de cathode du tube EL84 ». À notre connaissance, un tel appareil n'existe pas encore. Mais lorsqu'on s'est servi du signal traceur, on peut dire qu'il s'en rapproche singulièrement. C'est un instrument qui permet de suivre un signal à la trace. Dans un poste récepteur, il permet de suivre la trace d'un signal. On lui a d'ailleurs également donné le nom d'analyseur dynamique. Que signifie tout cela ? En présence d'un récepteur récalcitrant, injectez avec votre étrodine une émission dans les douilles antenne terre du poste. Cette émission, ce signal, votre signal traceur va vous permettre de le suivre dans les différents étages du poste. Au cours de ces différentes transformations, vous le retrouverez amplifié, détecté, transformé, peut-être déformé en différents points. Si, avec votre signal traceur, vous entendez le signal en un certain point, puis plus rien en un autre point, vous pouvez être certain que la panne récalcitrante est cernée, localisée, qu'elle se trouve entre ces deux points en question. Si vous entendez une émission correcte, puis que plus loin cette émission est déformée, mauvaise, vous localisez ainsi immédiatement et sans erreur possible l'étage qui provoque cette distorsion. Le signal traceur permet encore bien d'autres essais et vérifications. C'est une sorte de bonne à tout faire du dépanneur radio. Lorsqu'on a appris à s'en servir, qu'on l'a bien en main, on a ensuite beaucoup de mal à s'en passer. T'écrire n'est pas te caresser. T'écouter n'est pas te prendre dans mes bras. Te lire n'est pas poser mes lèvres sur tes lèvres. Mais si c'est vraiment tout à fait ça, et puis l'instant d'après, non, ça contient trop de creux, je hurle après ta présence, même du coin de l'œil. La manière dont tes manches révèlent tes poignets à la naissance de tes avant-bras me fait fondre, ça ne se dit pas, je sais, alors je m'avance en terrain inconnu. Je le savais, je le pressentais, il se passe ce qui se passe, perte de moyens. Augmentation terrible et terriblement magnifique de l'intensité. Ne pas vouloir l'atténuer d'un iota malgré des signes cliniques alarmants et plaisants et drôles et émouvants. Oui, c'est ça, quand cela nous a-t-il foudroyés ? Et on fait quoi maintenant ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors comme ça, jeté dans la peau ? La peur du grand vide, cela m'inquiète. Je n'ai pour le moment pas de réponse. Mais je souhaiterais que nous en reparlions. Pendant que j'admirais un à un chaque endroit, tantôt goûtant un décor terrestre, tantôt élevant à l'instar de mon corps mon âme vers de plus hautes sphères, je décidai de jeter un œil au livre des Confessions de saint Augustin, présent de ton amitié. Je le conserve en mémoire. Un petit livre, gros comme le poing, d'un format étroit, au charme infini. Je l'ouvris pour lire la première page venue que pouvais-je y rencontrer qui ne fût un passage pieux, et plein de dévotion. Le livre 10 de l'ouvrage se présenta sous mes yeux. Désireux d'entendre par ma bouche un passage de saint Augustin, mon frère se tenait debout et tendait l'oreille. Je le jure sur Dieu et sur lui-même qui était présent. Dès que j'eus fixé mon regard, je vis écrit « Les hommes vont admirer les hauteurs des montagnes, les flots immenses de la mer, les cours très larges des fleuves, le pourtour de l'océan, le manège des étoiles, et s'abandonnent eux-mêmes. » J'eus honte, je l'avoue. Priant mon frère, avide d'écouter, de ne pas me déranger, je refermais le livre, irrité contre moi-même d'admirer encore des choses terrestres, moi qui aurais dû depuis longtemps apprendre des philosophes païens eux-mêmes. Ayant amplement satisfait mon désir de contempler ce monde, je portais mon regard à l'intérieur de moi-même. Et de ce moment-là, plus personne ne m'entendit parler jusqu'au moment où nous fûmes parvenus en bas. Ces paroles avaient bien de quoi. Occuper mon silence. Je ne pouvais penser que c'était là le fruit du hasard et je considérais que tout ce que j'avais lu là-haut avait été dit pour moi et non pour un autre. Je repassais dans mon esprit ce que le même saint Augustin avait jadis pris pour lui quand, pendant sa lecture du livre de l'apôtre, comme il le rapporte, il était tombé en premier lieu sur ce passage. Ne vivez pas dans l'orgie et l'ivresse, dans la débauche et les impudicités, dans la rivalité et la jalousie. Mais revêtez-vous, ne mettez pas vos espoirs dans la chair. Saint Antoine s'était déjà trouvé auparavant dans cette situation quand il avait entendu l'évangile où il est écrit « Heureux qui a pu connaître les principes de la nature et fouler aux pieds toutes ses craintes. » Ouais, ça marche. L'écho est entre le souffle et la marche. Cadrage à la limite entre nous s'étire les possibles. Entre les parois des passages, une limite. Quelque chose se fendille, craque, s'entend entre les parois. La corde n'est pas verticale, les filaments peuvent être cailloux. Très souvent la mer, son cadrage. Sa profondeur est une surface vide, organique, prétexte au croisement entre les filins. Quels espaces ? Une zone imposante, un inconfort particulier, sans crainte. Un renversement. Le risque est un prétexte. Il y a des hauteurs à gravir, des guidages. Les statues tiennent au sol longtemps. La vue perce loin, rend la sortie facile. La respiration, un coussin, oublie de la structure, elle fond. Ce qui bouge entre les articulations échappe toujours. Or, un appui est ce qui vient se retourner et voir, embrasser, lécher, ramper sous le sol. Les pieds dehors aimant une idée caillou, comme rendez-vous plantaire. Expérimenter les circonférences, la limite est toujours un espace, crête y compris. La limite est toujours une espace. Fine, racle un sol sous la surface, usure, corne.
On peut faire une transition aussi.
On peut faire un... Ce qui frotte est ce qui additionne. Une bonne stratégie est ne pas piétiner, doucement, embrasser, très souvent, doucement, risquer, très souvent, prendre rendez-vous. Malgré l'espace, le temps, alimenter les échappées pour la dissolution. Très souvent, les nerfs fondent, très souvent, et l'eau se tend, coulée douce, franche, fluviale, sur la langue. Quelques alluvions, c'est une mémoire, toute tentative acceptable pour fabriquer du temps, une durée angulaire. Serpenté, voire si trop aigu, alors une cicatrice, alors une blessure, alors un biais. Le risque blanchit, fait blanchir. ne permet pas un décodage immédiat, sauf par la finesse des crêtes et de leur irrégularité. La seule chose qui porte, voit, la seule chose qui permet les angles. Aucune sortie envisageable, sauf par le poids des alluvions. Leur poids permet le roulement, leur poids une inscription, un débord. Une vision à travers la membrane, une assurance, une saisie, une falaise, réclame un dos, une paroi verticale, une aimantation. À l'angle de la plante, certains équilibres ne peuvent pas revenir. Mais rendre la sortie plus caillouteuse. Fabrication d'un temps ensemble, d'une réitération, d'une caresse. Sur le dos de roche, aucun frémissement, c'est tout dedans. Le doux du non-touché se dépose en couches, sédiments. Le temps est géologique, le doux fait l'os, architecture. Les cailloux fondent dans la bouche, très souvent, leur cœur se livre. Très souvent, ils se délitent sans disparaître, les retrouver, en parler, les faire revenir en écho intérieur. La falaise ne rencontre pas son double, ne fait pas le tour d'elle-même, ne se voit pas. Elle rentre dans la pupille, elle lance, reçoit, relance des effets sur la langue des cailloux qui y fondent. Doucement, fabrique les articulations, retour, le tendon ne vient pas. Si pas de falaise, pas d'écho, pas de rencontre, pas de relance, et les cailloux sont une expérience en cours, une pratique de la finesse, des cercles non concentrés, un cadre tendre, et la rencontre est un risque blanc, une eau pour dessoudre, un appel de falaise, une idée de l'écho, une vue peu cavalière, un croisement liquide, une échappée raide, entre les parois, faire un cadre tendre, en faire le tour pour reconnaître, comprendre, prendre avec, saisir, saisit ce qui est en cours, une crête, une route, gouffre dit appel d'air sous les pieds, la plante voire caillou dans la bouche, ça live comme vie, comme crête, toujours renouvelée, crête comme tendresse, risque blanc à prendre avec ligne où tout peut être écrit. Si jaillir à la sortie est possible, l'expérience est en cours, la vie entre gouffre et crête. Saisir, c'est s'attacher aux circonférences ou ce qui reste malgré, dissous quelques cailloux sous les pieds, l'équilibre, la crête s'élance, structure le risque sous les pieds, voire cailloux, cailloux dans la bouche, très souvent la bouche, très souvent, la seule chose qui porte, toujours renouveler le risque, fait appel d'air, embrasser une crête, dissoudre la limite, faire le tour d'une corde raide, céder égale respirer, voire jaillir en crête, gouffre, appel d'air, un risque, sa blancheur. Marcher égale boire, caillou par les pieds, la peau de sous-trame, un sédiment mouvant vers statut sans socle, ce qui vient, organe infuse. Sortie plus facile, une ossature, un plan, une expérience en cours. De part et d'autre, l'incertain, la bouche embrasse solide sous les pieds. Densité vide entre deux falaises. Traverser, rendre la sortie plus facile, s'élancer. Sinon jaillir ou risquer ce qui vient, la sécurité, sédimente les articulations dans la bouche, le risque pourrait servir à s'échapper, l'organisation se trame. Une dissolution de cailloux, vertèbre, la bonne stratégie. La sécurité par la plante du pied en temps voulu, piétinement de la sédimentation mentale. Ta peau se confond avec l'air. Ta peau distance, ce qui pourrait épouser le désir se déclin, une rencontre intérieure. Inaccessible. Une solidité transparente contre laquelle mes os se brisent. L'ombre est toute dans la main, toute sous le sein. Une tenue acmée, volubile. Une cadence, une douceur, une défaite. Petite robe Vichy rose à col, robe en viscose rayée, verte et vert foncé, robe qui arrive aux genoux, petit motif rose rose pâle, blouse russe, marinière, foulard, petite bretelle blanche, rayure verticale, robe à fleurs, chemise nouée sur le ventre, pantalon moulant, petite chaussure, collier de perles, maillot de bain à croisillon, pendentif, petit haut moulant à paillettes, robe, robe à paillettes noires, peignoir en soie, satin à pois, cheveux décoiffés, eyeliner noir, ombre sur les pupilles, chemise, décolleté, long pendentif, jupe portefeuille avec poche sur le devant, ceinture à rayures, petite robe autrichienne à fronce avec un petit nœud devant, bretelle, petit débardeur à rayures, sa mâchoire carrée, ses yeux qui à chaque expression vont vers le plissé, le bridé, soutenu par les sourcils. Tout devient fin et une fente, les lèvres aussi, qui passent de sensuel à une fente. La folie mise en équation, la jalousie mise en fiche répertoriée sur des cartons colorés, différemment d'après les états d'âme et la localisation dans le temps, dans l'espace. La folie mise en équation. Elle a une taille d'une finesse extraordinaire. Ses cheveux sont levés en chignon bien tiré derrière. Et le chignon est un petit peu écrasé sur le haut de la tête et forme comme une fleur. Ses dents sont carrées, sa mâchoire est carrée, les lignes sont parfaites. Il y a un petit galon sur son décolleté, elle a une chaîne très fine au cou, avec une croix qui descend, presque à la naissance des seins. Elle se penche sur le berceau et son visage disparaît. Disparaît derrière une vague d'eau. Toute la précision de son visage se brouille. Quelque chose dégouline, les images se diffractent. Les motifs se multiplient. Les reflets s'échangent entre eux. Des courbes finissent en droite, les droites en courbe. Ça tourne. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve ? Qu'est-ce qu'elle lui trouve ? Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve ? La paupière maquillée, la poudre brillante, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve ? Qu'est-ce qu'elle lui trouve ? Le rapport inversé, en particulier des voix. Ces phrases déformées. Mais tu es fou, tu es fou, mais tu es fou. Progression dans la complication. Regarde, regarde, preuve, preuve, regarde, regarde. Timbre de voix presque normal. Ta blessure s'est rouverte. Qu'est-ce que tu crois ? Ta blessure s'est rouverte. Juste un mot. Calme-toi. Ne pense à rien, calme-toi, rien. Calme-toi, ne pense à rien. Calme, calme. La caméra fait des zooms très inquiétants sur des objets. Ses pommettes brillantes, son menton légèrement en galoche, brillant, autour de sa bouche ouverte. Des mains disparaissent. Une glace déformante, tout se déforme. La possibilité de chercher librement, au plus près de la peau, au plus près du derme, au plus près des rides, au plus près de la multiplication des yeux, des bouches, des nez, on est derrière la peau, dans l'humidité du corps, l'humidification des yeux. Est-ce son personnage réside en elle, ses yeux d'un gris vers gris bleu ? Les légers plis de sa taille quand son corps s'adapte aux vagues du lac sur le ski nautique, les nœuds sur le côté de son maillot de bain, Son bonnet de bain blanc qui entoure son visage, la bride sur son cou et le petit nœud sur le côté, les fleurs, la croix à son cou, la transparence de ses yeux et l'ombre dans ses yeux, la lèvre supérieure très dessinée, comme des montagnes, son chapeau de paille. Elle devient un monstre pour lui, à cause du train, en chemisier, avec une broche légèrement décoiffée, les sourcils légèrement froncés, le clair obscur, allô, allô, calme, calme, rouge, rouge, bleu. Son visage change d'expression à chaque seconde, de sévère à sereine, blanche au sol sur du lino. L'eau sur elle la brouille, la surface de l'eau brouillée, le barrage, l'eau du barrage. Okay. Les paillettes et les lumières, les petits plis du menton quand elle enlève la cigarette de sa bouche, la langue qu'elle passe sur ses lèvres, les cendres de la cigarette, son regard. Son nez tourne, sa gorge, toute sa peau brille, semble dorer la fumée qui s'échappe de sa bouche. Lentement, son nez, pointu. Ses mouvements légèrement saccadés, ses cheveux roux, la fumée qui rentre dans sa bouche, son visage de poupée, la dentelle, en chemise de nuit. Elle s'appuie sur un talon, élève une chaussure blanche. La main sur les hanches, elle marche. Sa taille n'est pas marquée, on voit sa culotte blanche. La chemise est large et légèrement transparente. Ses cheveux blonds sont attachés par un nœud. Elle marche, un pas en avant, un pas en arrière, elle fume, elle est en tailleur gris. Ses cheveux bruns sont attachés par un nœud noir, son nez est légèrement retroussé. Sa robe à motif avec des dentelles laisse voir un décolleté, les petites bretelles sont presque au bord des épaules. Tout son corps sort de l'eau, d'un seul coup. Image. Temps. Mutation des gestes et des mouvements. Mouvement du monde aspirant et emportant. Parallèlement aux ondes qui se propagent, agglutination, rencontre, soudure, séparation, superposition, rapprochement. L'objet réel se réfléchit dans une image en miroir comme dans l'objet virtuel, qui enveloppe ou réfléchit le réel. Ça a commencé par l'oreille. Voir dans sa tête les paroles entendues, les voir flotter dans un espace de vent dans la tête et quand il faut parler, ne pas pouvoir faire autrement que fabriquer les phrases, les voir, puis les lire. Lire une phrase qui flotte. Cela ralentit bien les choses, ça les suspend parfois pour longtemps. Tout...
This series of films has told the story of the rise of a narrow and peculiar kind of freedom. The last two programs have shown how politicians, from both the right and the left, came to believe in a simple...